Le monde héroïque, et non pas, vous l'aurez remarqué, le héros ni l'héroïsme. C'est dire que l'objet de cette étude ne sera pas l'héroïsme individuel et ses diverses modalités. Je ne me demanderai pas quel cheminement intérieur peuvent faire d'un homme comme vous et moi un héros. Je ne tenterai pas de juger ni d'apprécier les mérites des différentes formes d'héroïsme. Disons que je ne ferai ni de la psychologie ni de la morale. Mon objet voudrait être plutôt sociologique. J'essaierai de décrire certaines civilisations dans lesquelles l'héroïsme a été une valeur majeure, une valeur officiellement reconnue, dans lesquelles il a constitué le fondement de la hiérarchie sociale. Les sociétés qui ont pris en effet pour principe organisateur l'éthique héroïque sont généralement des sociétés archaïques, je dis archaïques sans aucune nuance péjorative, réunissant des groupes humains d'extension limitée et en perpétuelle compétition avec des groupes rivaux. Donc les risques permanents d'agressions extérieures donnent à ceux qui assurent dans ces sociétés la défense commune un statut social privilégié. C'est pourquoi le visage qui revêt l'héroïsme est avant tout guerrier. Les sociétés de ce type sont fortement hiérarchisées, ce qui ne veut pas dire centralisées. Elles offrent un aspect patriarcal. Les liens interpersonnels, comme les liens de parenté, l'hospitalité, la vassalité, en forment le ciment. En l'absence d'institutions administratives, juridiques et politiques fortes, la Grèce homérique ou l'Europe occidentale de l'époque féodale en fournissent les meilleurs exemples qui sont familiers à tous. L'éthique héroïque est donc étroitement fonction de données sociales et historiques déterminées. Mais cet enracinement dans l'histoire ne l'empêche pas d'avoir une dimension imaginaire très marquée, car il s'agit avant tout d'un idéal auxquels les hommes réels, les hommes vivants, ne se conformaient que très imparfaitement. Et cet idéal trouve son expression la plus achevée dans la littérature. C'est donc à travers des textes littéraires que nous chercherons un accès à ce monde héroïque exemplaire. Monde fictif, bien sûr, mais très révélateur de ce que rêvaient d'être les hommes qu'enchantait la récitation de l'Iliade ou de la chanson de Roland ou des sagas scandinaves. C'était des miroirs où s'admire une société et en même temps des modèles proposés à l'ambition des meilleurs de ses membres. Ces textes traduisent donc sous une forme privilégiée, simplifiée et magnifiée, les valeurs directrices et les aspirations fondamentales de la société dont elles sont issues. Par-delà les variations dues au pays et à l'époque, les univers évoqués par les grandes épopées orales populaires présentent des caractéristiques communes. Je tenterai ici d'en dégager un ensemble de traits permanents, d'esquisser une sorte de schéma qui pourra ensuite, au besoin, vous servir de référence pour apprécier la richesse et surtout la diversité des grands textes que vous aurez l'occasion de lire. Selon le dictionnaire de Littré, le nom de héros désignait, chez Homère, les hommes d'un courage et d'un mérite supérieur, favoris particuliers des dieux, et chez Hésiode, ceux qu'on disait fils d'un dieu et d'une mortelle, ou d'une déesse et d'un mortel. C'est le cas dans la mythologie grecque d'Achille, d'Héraclès, d'Énée et de tant d'autres. Cette ascendance divine trouve son équivalent pour l'Occident chrétien dans la prédilection marquée que Dieu manifeste à tel ou tel de ses champions. Roland, par exemple, dont l'ange Gabriel recueille l'âme, ou Charlemagne, en faveur de qui Dieu arrête provisoirement le soleil. Beaucoup de héros bénéficiaient d'une invulnérabilité presque totale, d'origine magique. Je dis presque totale parce qu'ils ont toujours un point faible. Achille, vous le savez, ne pouvait être blessé qu'au talon et Siegfried qu'entre les deux omoplates. Tous sont doués d'une force surhumaine, comme l'atteste l'existence d'armes ou d'objets qu'ils sont seuls à pouvoir manipuler, épée, arc, javelot, loquet de porte même. comme le prouve également l'efficacité des coups qu'ils portent à leurs adversaires dans le combat. Ils sont, nous dit Homère, semblables à des dieux, et leurs exploits se situent toujours dans un temps antérieur, un temps plus mythique qu'historique, un temps qui est senti en tout cas comme bien supérieur en qualité à un présent décevant. Cette élection divine dont jouissent les héros n'offre pas seulement un ressort surnaturel commode aux narrateurs d'exploits hors du commun. Elle est la marque d'un accord profond entre la société héroïque et la divinité qui préside à ses destinées. Les dieux antiques, pas plus que le dieu du christianisme, ne sont présentés dans les poèmes épiques comme des forces capricieuses, aveugles. Au contraire, ils sont les garants d'un ordre. Ils font que ce qui doit arriver arrive. Le monde héroïque n'est pas livré au hasard, il est très fortement structuré. Et la vie et la mort des héros y sont chargés d'un sens clair et sont proposés en exemple. Le terrain où s'illustre le héros est le champ de bataille. C'est tout à fait naturel dans des sociétés où la guerre est considérée comme un état normal et où elle se distingue mal de la vengeance privée, voire du simple esprit d'aventure ou de conquête. En des temps où la force physique n'était que très peu relayée ou amplifiée par la technique, il n'y avait pas d'armes à feu, pas de moyens de combattre à distance, les hommes les plus vigoureux se détachaient du lot et formaient une caste, celle des « meilleurs », entre guillemets, l'aristocratie, si vous prenez le sens étymologique de ce terme. Ces guerriers, supérieurs aux autres membres de la communauté, notamment aux producteurs, sont théoriquement égaux entre eux, sauf prééminence qui est fondée sur leurs exploits. Parmi eux, c'est donc le règne de la compétition permanente qui permet d'établir une sorte de classement, un classement qui ressemble un peu à celui qui existe de nos jours dans certaines disciplines sportives, par exemple. Dans le camp des Grecs, sous les remparts de Troie, tous savent qu'Achille est le meilleur. Et Hector lui-même, au moment de l'affronter, reconnaît sa supériorité. « Je sais bien que je ne te vaux pas », lui dit-il en substance. Leur but est de conquérir l'honneur ou la gloire. La gloire, c'est la survie dans la mémoire de la postérité. Survie d'autant plus importante pour les héros homériques que l'autre monde ne leur promet qu'une vie diminuée, une existence d'ombre vaine. Mais cette survie compte aussi pour un Roland qui redoute très fort le blâme qu'une lâcheté de sa part ferait encourir à toute sa parenté. La notion d'honneur, elle, comporte, en plus de l'idée abstraite de réputation, des implications plus concrètes. C'est un ensemble de privilèges, de prérogatives d'ordre social, qui sont souvent matérialisés par des biens de grande valeur, pierreries, métaux précieux travaillés, étoffes, fourrures, armes, bœufs, chevaux, etc. Les richesses ont, dans ces sociétés, un rôle sensiblement différent de celui qu'elles jouent dans la nôtre. Généralement issues de prises de guerre, ce sont les témoins visibles, palpables de l'exploit accompli, les signes manifestes de la prééminence sociale. Les poèmes héroïques ont donc tendance à passer sous silence le rôle proprement économique, le rôle de moyen d'ostent, leur rôle proprement économique, leur rôle de moyen pour obtenir des biens de consommation, au profit de leur valeur d'ostentation. Et, par exemple, les soucis financiers de Rodrigue dans le poème du Cid constituent une note de réalisme qui est très rare dans un poème historique. À la guerre, les richesses se transmettent de main en main sous forme de trophées ou de butins conquis sur l'ennemi ou d'armes léguées par un ami mourant. Et à chaque transfert, elles se chargent d'un prix moral supplémentaire. En temps de paix, elles entrent dans un circuit subtilement codifié de dons et de contre-dons qui permet à chacun de se situer à sa juste place dans la hiérarchie. C'est ainsi qu'il est plus flatteur de donner que de recevoir. Et la magnificence des cadeaux prodigués est la marque d'une éclatante supériorité. Ainsi s'explique la complaisance, parfois un peu fastidieuse, que mettent les poètes à énumérer et à décrire les richesses de leurs héros. La notion d'honneur est donc avant tout sociale. On vit devant les autres et on tient le plus grand compte de leur jugement. on est presque constamment en représentation. Mais cette aspiration à l'honneur reste individualiste d'une certaine façon, car c'est bien l'individu qui en est le bénéficiaire exclusif. Le héros combat pour s'illustrer lui, non pas pour faire triompher une cause. Ce trait est tout à fait net dans l'Iliade, où les motifs du conflit apparaissent dérisoires. Pour l'Occident médiéval, où la guerre contre les Sarrasins fait figure de croisade, il convient de nuancer. Mais le cas de Roland, refusant de sonner du cor afin de ne pas passer pour lâche, et vouant du même coup à la mort tous ses compagnons, montre clairement que l'honneur individuel a parfois des exigences assez étrangères à l'intérêt bien connu de la collectivité, bien compris de la collectivité. On ne s'étonnera donc pas de voir la guerre se réduire le plus souvent à une suite de combats singuliers, où des adversaires s'affrontent deux à deux selon des phases toujours identiques, offrant un caractère presque rituel. Le guerrier revêt son armement pièce par pièce, il arrive sur le terrain, il défie verbalement son adversaire, il use successivement contre lui de tel et tel type d'armes, lui donne tel ou tel type de coup, avant de l'abattre mort sur la place. D'Homère la chanson de Roland, les détails varient, mais le caractère codifié des récits de combat est très sensible à l'intérieur de chacune des épopées. Les deux camps sont décrits en termes symétriques et leur organisation interne obéit aux mêmes règles, à la religion près quand il s'agit de Sarrasins. Le rôle accordé aux cérémonies funéraires est capital, car ce sont elles qui consacrent publiquement le lien qui unit le héros mort à la collectivité. Les funérailles de Patrocle, celles de Roland, retiennent longuement l'attention des poètes, on le sait. Comme on pouvait s'y attendre, puisqu'il trouve dans la guerre son illustration exemplaire, l'univers héroïque est un univers masculin dont les femmes sont pratiquement exclues. Alors, quand elles apparaissent, c'est dans le rôle d'épouse ou de captive. Et l'un vaut à peine mieux que l'autre dans l'Iliade. Elles sont appelées à subir, souvent à grande douleur, les répercussions d'une action dont elles ne sont que spectatrices. Il y a cependant des exceptions. Quelques-unes rivalisent avec les hommes dans les exercices de force ou au combat. Mais si on écarte les mythiques Amazones, que la légende grecque cantonnée prudemment dans un monde à part, les vierges sportives ou guerrières, comme Atalante, Brunehilde ou Bradamante, sont faites surtout pour donner aux hommes la satisfaction de les dompter, et elles perdent tout d'un coup, au soir de leur mariage, leur force surnaturelle. On ne peut donc pas dire qu'elles jouent un rôle proprement féminin dans un monde qui reste régi par les guerriers. En revanche, alors, l'idéologie courtoise médiévale accordera, elle, à la femme une place prépondérante et ira jusqu'à substituer l'amour à la gloire comme moteur de l'action du héros. On se souvient de Lancelot acceptant de monter, pour l'amour de la reine Guenièvre, dans la charrette d'infamie. Mais il s'agit là d'une transformation, est-ce que j'irais jusqu'à dire d'une dégradation, de l'éthique héroïque primitive en romanesque. L'existence d'une caste de guerriers nombreux et jaloux de leurs privilèges ne va pas sans engendrer dans l'univers héroïque des tensions et des conflits. Le héros se trouve notamment exposé à se heurter aux détenteurs du pouvoir suprême. C'est ici qu'il faudrait rappeler les travaux de Georges Dumézil, dont les recherches ont montré que les peuples indo-européens concevaient l'organisation sociale idéale sous la forme d'une répartition entre des détenteurs différents des trois fonctions primordiales que sont la fonction juridique et religieuse, la fonction guerrière et la fonction productrice. Et on constate en effet que dans bien des poèmes épiques, le héros le plus accompli et le souverain sont des personnages distincts. Achille et Agamemnon, Roland et Charlemagne, Héraclès et Eurysthée, Siegfried et Gunther dans les Nibelungen, Rodrigue et Alphonse dans le Cid, etc., etc. Or, dans une société fondée sur la supériorité physique, il est évident que le héros constitue une menace potentielle pour le roi du simple fait qu'il est plus fort que lui. Il en résulte des conflits ouverts, aigus, Achille contre Agamemnon, ou tempérés, le Cid contre Alphonse de Castille, par exemple. Il peut en résulter aussi des crises qui couvent et qui se résolvent dramatiquement, comme par l'assassinat de Siegfried. La chanson de Roland porte témoignage sur une situation sociale et juridique transitoire. On y voit le roi de France, ici également empereur, imposer peu à peu son autorité aux féodaux. Roland, qui est la figure exemplaire, montre envers Charlemagne une soumission entière et totale. Mais c'est surtout le procès de Ganelon qui illustre les progrès de l'autorité royale. On remarquera en effet que Ganelon ne se considère pas comme un traître et que ce point de vue est partagé par toute sa parenté. C'est qu'il avait été offensé par Roland et que la vieille coutume féodale l'autorisait à en tirer vengeance lui-même. C'est cette coutume qui entraînait la pratique du duel pour régler les différends entre nobles et dont vous avez entendu parler parce qu'elle a longtemps prévalu jusqu'au XVIIe siècle. Or, la chanson enseigne que le désir de vengeance privée doit passer après les intérêts de la patrie et de l'Église. Charlemagne, qui représente la France et la chrétienté, punit donc le coupable de trahison. Contre l'usage de la vengeance privée, il fait prévaloir sa propre justice. Il fait cependant une concession à l'usage. Il autorise un duel judiciaire entre deux champions, l'un pour Roland, l'autre pour Ganelon. Mais ce duel n'a plus rien de la compétition pure et simple entre deux challengers revendiquant le premier rang. C'est l'occasion pour Dieu de montrer lequel des deux a pour lui le droit. Et vous vous rappelez sans doute que Dieu fait triompher le plus faible des deux, ce qui est la preuve que la force pure doit s'incliner devant la justice. L'éthique héroïque paraît donc appelée à perdre du terrain dès qu'on voit apparaître un pouvoir politique fort qui met en place des institutions juridiques efficaces. Que ce pouvoir soit démocratique ou monarchique ne change absolument rien au résultat. L'idéal héroïque n'est pas plus compatible avec la démocratie athénienne qu'avec la monarchie carolingienne. L'une comme l'autre mettent fin à l'esprit d'indépendance et d'insubordination qui animait le héros guerrier. Et elles invitent l'individu à s'effacer devant les exigences de la collectivité. D'autres sortes de conflits tendent également à miner la fonction du guerrier de l'intérieur. On a souvent noté que les héros les plus remarquables franchissaient parfois les limites au-delà desquelles il ne nous était plus possible de les admirer sans réserve. On a blâmé les excès de la colère ou de la cruauté chez Achille, et il est très vrai que la façon dont il s'enivre du sang versé, son refus d'épargner un adversaire suppliant, les débordements de sa violence, de la violence qu'il exerce sur le cadavre d'Hector, peuvent même faire horreur. On a critiqué aussi l'orgueil, la présomption de Roland refusant de sonner du cor contre toute raison. Mais aucune réprobation morale ne s'attache à ces excès dans les poèmes qui célèbrent les deux héros, au contraire. Et l'ange Gabriel se dérange pour venir recueillir l'âme de Roland, mais pas celle d'Olivier, Olivier le sage. Il faut se rendre à l'évidence. Les sentiments humanitaires n'étaient ni le fait ni d'Homère, ni de Turoldus ou de l'auteur anonyme de la chanson. Ce n'est qu'un peu plus tard, en Grèce sous l'influence de la philosophie et en Occident sous l'influence de la pensée chrétienne, que le type d'homme chanté par l'épopée guerrière se verra remis en question et qu'on proposera à l'admiration des vertus plus discrètes. Les personnages présentés ainsi, alors comme modèles pourront être par exemple Socrate ou, pour la chrétienté, les figures des grands saints. Mais alors à ce moment-là, l'univers héroïque aura vécu. Mais pour l'instant, arrêtons-nous sur le franchissement des limites que commettent presque tous les grands héros, sur cette démesure à laquelle ils succombent dans le cadre même de l'idéal héroïque. La situation du guerrier est par essence ambiguë parce que sa fonction est de donner la mort et que c'est là, même s'il s'agit de la mort de l'adversaire, une fonction qui touche au sacré et qui soulève en nous d'obscures et profondes terreurs. Elle lui impose un contact permanent avec le sang, une participation à la violence toujours perçue comme dangereuse. Elle l'oblige à posséder, pour vaincre, des qualités qui ressemblent beaucoup, comme le souligne Georges Dumézil, aux défauts de ses adversaires. Ivres ou exaltés, dit-il, ils doivent se mettre dans un état nerveux, musculaire, mental, qui multiplie et amplifie leur puissance, qui les transfigure, mais aussi les défigure, les rend étranges dans le groupe qu'ils protègent. Et surtout consacrés à la force, ils sont les triomphantes victimes de la logique interne de la force, qui ne se prouve qu'en franchissant des limites, même les siennes, même celles de sa raison d'être, et qui ne se rassure qu'en étant non seulement forte devant tel ou tel adversaire, dans telle ou telle situation, mais forte en soi, la plus forte. Fin de citation. La plus forte, envers et contre tout, et à n'importe quel prix. On voit le danger. C'est pourquoi, dans les poèmes héroïques, le guerrier par excellence, le pur guerrier, est presque toujours voué à la mort. Achille, Héraclès, Roland, Siegfried, l'Irlandais Cuchulain et tant d'autres meurent. Bien plus, ils meurent jeunes. Tout se passe comme si leur participation à la violence recevait à la fois deux rétributions, contradictoires mais complémentaires. Le salaire de la violence, dans l'ordre de la réalité vécue, c'est la mort. Dans l'ordre de l'imaginaire, c'est la gloire, la survie dans la mémoire des hommes. Et le fameux choix jadis offert à Achille, vous savez, le choix entre une vie longue et obscure ou courte et illustre, exprime à merveille cette conviction que dans le monde héroïque, la gloire et la mort sont inséparables. Contre ce destin douloureux, le héros ne se révolte nullement. Au contraire, il y souscrit de toute son âme, dans l'acceptation lucide ou dans l'enthousiasme du sacrifice. Cette mort prévue, accueillie, élue même par lui, scelle son accord profond avec les tendances, avec les croyances fondatrices de l'univers culturel auquel il appartient. Les poèmes héroïques ne sont pas subversifs, le moins du monde. Ils sont l'expression d'une société reposant sur un ordre reconnu par tous. L'héroïsme ainsi représenté est à la fois admirable et redoutable. Assez admirable pour offrir un modèle vers quoi tendre, et assez redoutable aussi pour faire craindre aux amateurs un destin prestigieux. De quoi susciter un tout petit nombre d'émules, de vraies émules, tout en encourageant le combattant moyen à mieux faire. Tous les soldats qui écoutaient réciter la chanson sur le champ de bataille de Hastings ne sont pas devenus des Roland, mais à eux tous, ils ont pu remporter la victoire. Cette crainte de la violence, cette peur de la voir se déchaîner sans frein, explique d'autre part l'existence de certaines institutions qui sont comme des substituts de la guerre, dont elles offrent, si j'ose dire, des formes atténuées, un petit peu comme on parle de virulence atténuée d'un bacille à propos de la vaccination. Ce sont les jeux dans la Grèce antique ou les tournois au Moyen-Âge. Comme la guerre, ces affrontements permettent aux héros de faire la démonstration de leur valeur. Mais à la différence de la guerre, ils sont contrôlés et maîtrisés. Les disciplines proposées dans les jeux en l'honneur de Patrocle sont très proches de celles qu'on pratique sur le champ de bataille, et on y gagne des prix identiques aux trophées de guerre. Mais on n'y va pas jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort de l'adversaire. On s'arrête à la première effusion symbolique de sang. Jeux et tournois offrent donc un exutoire à l'agressivité latente. Ils fonctionnent comme des cérémonies rituelles destinée à apprivoiser en quelque sorte la violence endémique en la maintenant dans un cadre fixé à l'avance. Ils opèrent ainsi une manière de catharsis. Ils préviennent l'explosion de la violence dans le corps social et contribuent à en assurer la cohésion lorsque la guerre extérieure ne remplit pas cet office. Les sociétés en question manifestent donc en face de la guerre une attitude ambivalente. La guerre est inévitable, mais c'est un mal, et on ne l'aime pas pour elle-même. Les héros la recherchent, bien sûr, mais ils la recherchent comme étant le meilleur théâtre qui leur permette de s'illustrer. Ils savent cependant, qu'ils devront payer de leur vie la gloire ainsi conquise par l'entremise du sang versé. Le monde héroïque ressent donc très fortement et perçoit très clairement le danger qui s'attache à la pratique continuelle de la violence impliquée par le statut de guerrier. Il évite le plus qu'il peut de valoriser tout uniment cette violence, même lorsqu'elle est au service d'une bonne cause. L'image qui en est donnée est toujours marquée du signe de la souffrance et de la mort. Et c'est pour dire leur nostalgie de la paix, leur douleur à l'idée de ne pas revoir leur pays natal et le regret que leur inspire la mort prochaine que les plus farouches des héros, Achille, Roland, trouvent leurs accents les plus émouvants. Dans l'Iliade, les chansons de gestes ou les poèmes épiques anglo-saxons, l'héroïsme revêt donc une forme qui peut nous paraître très étrangère aujourd'hui, vraiment très loin de nous. L'idéal héroïque n'est plus dans le monde moderne un principe organisateur de la société, et de plus, la pensée occidentale est souvent plus que réticente devant son visage guerrier. Mais notre imagination n'est pas moins sollicitée par d'autres incarnations de supériorité fascinantes. La preuve en est que les œuvres de fiction n'ont jamais autant pullulé de surhommes de toutes sortes. Le vieux rêve de triomphe et de gloire n'est pas mort. L'analyse des ressorts du monde héroïque ancien ne pourrait-elle pas alors nous aider à mieux comprendre notre propre aspiration héroïque et au besoin à en déjouer les pièges et les tentations ? Tel est le vœu que je formulerai pour finir.